de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le vice-président et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite ont discuté de la Ligue Arabe et du partenariat entre les deux pays. Le ministre indonésien des Finances accepte la visite du Conseil d'affaires États-Unis ASEAN. L'Indonésie et l'ASEAN effectuent une évaluation post-catastrophe du cyclone Moka Myanmar. L'Indonésie et le Luxembourg explorent la coopération en matière de technologie, de l'information et de la communication et le financement sharia. La Corée du Sud et le Japon tiennent le premier dialogue sur l'énergie en 6 ans. L'Arabie Saoudite lance un visa électronique en Indonésie. Voici le journal complet. Le vice-président Maruf Amin à Jakarta jeudi a reçu deux diplomates importants d'Arabie Saoudite, à savoir l'ambassadeur saoudien Faisal bin Abdul Haji Amodi et le vice-ambassadeur Essam Al-Ghetal. Le porte-parole du vice-président Masduki Baydlawi, dans une déclaration vidéo jeudi, a déclaré que lors de la réunion, le vice-président Maruf et l'ambassadeur Faisal avaient discuté des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Indonésie qui avaient été construites depuis assez longtemps et étaient très bien. L'Arabie Saoudite espère que les relations avec l'Indonésie pourront se dérouler plus concrètement, notamment sur le plan commercial et économique. Le vice-président et l'ambassadeur Faisal ont déclaré leur engagement à renforcer le partenariat de l'Indonésie avec l'Arabie Saoudite. La ministre des Finances, Sri Mulyani, a reçu la visite du Conseil d'affaires États-Unis ASEAN dirigé par l'ambassadeur Ted Osius à Jakarta. C'est le communiqué officiel du ministère des Finances cité par Antara jeudi. Au cours de la réunion, la ministre des Finances a entendu diverses contributions, notamment les politiques fiscales, les transactions numériques, les développements industriels, aux investissements dans les secteurs des énergies renouvelables, de la santé et de l'éducation. Pendant ce temps, Sri Mulyani a déclaré que l'Indonésie est un pays prospectif et promoteur pour l'avenir. Les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de l'ASEAN en Indonésie. 22% de tous les investissements directs étrangers ou IDE proviendront des États-Unis à partir de 2021. Sri Mulyani a déclaré que la coopération avec le Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN est une forme de bonne opportunité de coopération et doit être maintenue afin d'atteindre l'Indonésie avancée 2045. Le gouvernement indonésien, en collaboration avec l'ASEAN et l'équipe d'intervention et d'évaluation d'urgence, a mené une évaluation le troisième jour après la catastrophe du cyclone Moka au Myanmar. Cela a été transmis par le chef par intérim du Centre de données, d'information et de communication sur les catastrophes de la BNPB, Abdul Muhari, dans une déclaration écrite jeudi. Il a déclaré que la SIAN est l'équipe d'intervention et d'évaluation d'urgence coordonnée par le Centre de coordination de la SIAN pour l'assistance humanitaire à la gestion des catastrophes au centre d'AHA était composée de 14 membres du personnel d'agence gouvernementale, y compris l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, en tant que représentant de l'Indonésie et de plusieurs autres pays de la SIAN. Abdul Muhari expliquait que cette activité était toujours centrée sur la province de Rakhine du 22 au 25 mai 2023, avec pour objectif d'évaluer plusieurs zones de la province de Rakhine. Les domaines ciblés pour l'évaluation sont les recommandations de l'Agence de la gestion des catastrophes du Myanmar. Selon les données du centre AHA, le cyclone tropical Moka qui a frappé plusieurs régions du Myanmar a tué 145 personnes. L'Indonésie et le Luxembourg explorent la coopération en matière de technologie de l'information et de la communication, TIK. Cela a été révélé lors d'une réunion bilatérale entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Hasselborn, jeudi 25 mai au bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La ministre Retno, après la réunion, a déclaré que dans le domaine économique, l'Indonésie s'est félicité l'augmentation des investissements luxembourgeois en Indonésie qui ont atteint 732% au premier trimestre 2023. En outre, il y a également une augmentation de la valeur des échanges de 15% entre l'Indonésie et le Luxembourg au cours des 5 dernières années.
We explore further possibilities of cooperating with Luxembourg.
Nous avons exploré d'autres possibilités de coopération avec le Luxembourg dans la construction d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication et l'échange d'expertise ainsi que le partage des meilleures pratiques dans le domaine de la finance charia. D'autres domaines qui ont également été abordés lors de la réunion bilatérale entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue du Luxembourg, Jean Hasselborn, était la coopération dans les domaines de transport et de la logistique. Au même jour, le ministre Hasselborn et le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, ont signé un protocole d'accord concernant l'accord de services aériens. Cet accord devrait encourager la connectivité et faciliter les opportunités commerciales, en particulier dans le secteur du fret. Les deux ministres ont également discuté de la coopération dans le secteur de la santé. Retno Marsudi a expliqué que la coopération en matière d'investissement dans le secteur de la santé est désormais plus importante qu'auparavant. Le Luxembourg a investi dans la construction d'une usine de production de réfrigérateurs médicaux à Depok qui est opérationnelle depuis octobre dernier. La Corée du Sud et le Japon ont tenu jeudi le premier dialogue sur l'énergie dans la ville de Busan en 6 ans pour discuter de la manière de renforcer la coopération sur l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, l'hydrogène et d'autres questions énergétiques, a déclaré le ministère sud-coréen de l'Industrie. Lors du dialogue au niveau des directeurs, les deux pays ont tous deux évoqué la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la sécurité énergétique, atteindre l'objectif de zéro émission et ont discuté de l'utilisation de ressources énergétiques sans carbone, telles que l'énergie nucléaire et l'hydrogène. C'est ce qu'a déclaré le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de Corée du Sud, cité par l'agence de presse Yonhap. Le Royaume d'Arabie Saoudite a lancé un programme de système de visa électronique et visa aux fins du Hajj et de l'Omra, des permis de séjour et de visite dans le pays pour les citoyens indonésiens. Cela a été transmis par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Faisal Abdul Ash Amodi, à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Jakarta jeudi. L'ambassadeur Faisal a déclaré que le programme est également une directive du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, Faisal bin Farhan al-Saoud, et était conforme à la vision de l'Arabie Saoudite 2030. Selon lui, la délivrance de visas électroniques vise à améliorer les services consulaires en Arabie Saoudite ainsi qu'à fournir des facilités faciles à ceux qui souhaitent profiter du programme, y compris les citoyens indonésiens. L'avantage du programme e-visa est que les demandes de visa peuvent être faites par email. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui avec Maudry. Ce soir, le commentaire d'aujourd'hui intitulé « L'accès à l'aide humanitaire pour l'ethnie Rakhine Birmanie est bloqué ». Chers auditeurs, les réfugiés Rohingyas de Rakhine qui ont été victimes du typhon Moka le 14 mai 2023 tentent de survivre dans une situation difficile. Le typhon Moka du 14 mai dernier a fait vivre des centaines de personnes dans des maisons sans toit. La junte militaire de la Birmanie a informé que le bilan du typhon Moka était de 148 personnes, principalement de la minorité Rohingya vivant dans l'ouest de l'état de Rakhine. Environ 90% des maisons Rohingyas ont été détruites et au moins 100 Rohingyas à situer auraient été tués lorsque les vents du typhon de plus de 150 milles par heure ont frappé la région. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucune idée des pays et des agences humanitaires internationales. Plusieurs pays et agences humanitaires mondiales tentent d'acheminer l'aide aux victimes afin qu'elles puissent survivre dans une situation difficile. Mais cette aide est encore loin d'être suffisante. Il y a encore beaucoup d'aide de la communauté internationale qui est prête à être distribuée dans les zones touchées, mais attend toujours l'autorisation de la junte militaire de la Birmanie. Au moment d'écrire ces lignes, la junte militaire de la Birmanie n'avait pas encore donné accès aux organisations humanitaires des pays et aux institutions internationales. L'agence onusienne a rapporté que le gouvernement de la junte birmane avait refusé l'entrée aux travailleurs humanitaires qui distribueraient de l'aide humanitaire aux réfugiés de l'ethnie Rohingya comme les victimes du typhon Moka. La communauté humanitaire en Birmanie a appelé à une aide urgente pour les personnes vulnérables dans la zone la plus touchée par le typhon. Les travailleurs humanitaires sont engagés dans une course contre la montre pour fournir un abri sûr aux personnes dans toutes les communautés touchées et prévenir la propagation des maladies d'origine hydrique. Mercredi 24 mai, les Nations Unies ont appelé la Birmanie à s'ouvrir et à garantir que l'aide vitale puisse atteindre les régions du pays touchées par le typhon Moka. Pendant ce temps, le gouvernement indonésien, l'ASEAN et l'équipe d'intervention et d'évaluation d'urgence, ERAT, mènent une évaluation depuis le troisième jour après la catastrophe du cyclone Moka en Birmanie. Le chef par intérim du Centre pour les données, l'information et la communication en cas de catastrophe de l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes, BNPB, Abdul Muhari, a déclaré que l'ASEAN et RAT étaient coordonnés par le Centre de coordination de l'aide humanitaire pour la gestion des catastrophes, AHH Center, qui se compose de 14 agences gouvernementales, dont BNPB, en tant que représentant de l'Indonésie et de plusieurs autres pays de l'ASEAN. Jusqu'à présent, les mesures d'atténuation d'urgence sont toujours prises en charge par les autorités locales, comme dans les régions de Sitwe, Ponagyun et Kyaktau. Les actions de la junte militaire de la Birmanie bloquant l'accès des organisations humanitaires locales et internationales aux zones touchées par le typhon Moka sont très regrettables. Quels sont soit les motifs ou les raisons derrière les actions de la junte militaire, les raisons humanitaires doivent être la principale considération. La junte militaire de la Birmanie doit remplir ses obligations fondamentales pour assurer la sûreté et la sécurité de toutes les communautés, y compris la communauté Rohingya, sans discrimination. Les agences des Nations Unies et les partenaires non gouvernementaux doivent bénéficier d'un accès rapide et sûr à toutes les communautés touchées par le typhon Moka. Bon, cher Jouetar, c'est tout le commentaire. La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans enregistrement. Dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia,
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Et on va commencer avec les événements du 26 mai 1972. Les États-Unis et l'Union soviétique ont signé l'accord de limitation des armements stratégiques, ou SALT I. Les États-Unis et l'Union soviétique ont entamé des négociations sur la limitation des armements stratégiques. Les négociations ont commencé en 1969 et ont abouti à l'accord SALT I, traité signé par le président des États-Unis Richard Nixon et le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique Leonid Brezhnev le 26 mai 1972. Le premier SALT a limité le nombre de lanceurs de missiles balistiques stratégiques au niveau existant et a permis l'ajout de nouveaux lanceurs de missiles balistiques lancés par sous-marins. Le 26 mai 2005, l'économiste indonésien M. Radius Prawiro est décédé. Radius Prawiro est l'ancien ministre des Finances de la République d'Indonésie. Il est également économiste et l'homme politique indonésien. Il est devenu l'un des fondateurs de l'économie indonésienne sous le règne du président Suharto. Radius Prawiro a occupé divers postes importants dans le domaine de l'économie financière, y compris des autres fonctionnaires à l'Agence suprême d'audit, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque d'Indonésie. Alors qu'il était gouverneur de la Banque d'Indonésie, il a également occupé des postes de gouverneur du Fonds monétaire international et de sous-gouverneur de la Banque asiatique de développement pour l'Indonésie de 1967 jusqu'à 1971. Radius Prawiro est décédé le 26 mai 2005 à Munich, l'Allemagne, à l'âge de 76 ans, en raison d'une maladie cardiaque. Le corps de Radius a ensuite été renvoyé en Indonésie le 31 mai 2005 et enterré au cimetière Taman Makam Pahlawan Kalibata, au sud de Jakarta. Le 26 mai 2006, l'ouverture de la gare centrale de Berlin. Berlin Hauptbahnhof est le point central au réseau ferroviaire allemand. Cette gare est également connue sous le nom de gare centrale de Berlin. Cette magnifique gare a été construite sur le site de l'ancienne gare allemande, à savoir la gare Lechterbahnhof, qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu 11 ans pour construire la nouvelle gare qui a rouvert le 26 mai 2006. La gare est une grande structure à plusieurs niveaux avec une longueur de véranda de 321 mètres. La construction de la gare centrale de Berlin a coûté plus de 700 millions d'euros. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Sorry, don't mercy. Sorry, sorry, give me space. I'm ready to bloom. keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul, and now who's in control? Don't ever lose yourself.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre. Le ministère du Commerce a signé l'accord de coopération sur la promotion du commerce avec l'Iran. Le directeur général du développement national des exportations du ministère du Commerce, Didi Sumedi, et le président de l'Organisation iranienne de promotion du commerce, ITPO, Ali Reza Peymanpak, ont signé un accord de coopération sur la promotion du commerce au Palais de Bogor, Asie occidentale, mardi le 23 mai dernier. La signature de l'accord de coopération a été effectuée lors d'une série de visites du président de la République islamique d'Iran, Seyed Ebrahim Raisi, en Indonésie, à l'invitation du président Joko Widodo le 23 et 24 mai 2023. Didi Sumedi, dans sa déclaration citée par Antara, a déclaré mercredi qu'en collaborant à la promotion du commerce, l'Indonésie et l'Iran peuvent se présenter mutuellement des produits et des services afin d'augmenter les opportunités commerciales et le volume des échanges bilatéraux. Didi Sumedi a également déclaré qu'une forte coopération en matière de promotion commerciale pourrait créer un climat propice aux investissements bilatéraux entre l'Indonésie et l'Iran dans un intérêt mutuel. Cela peut également favoriser la diversification des produits offerts par les deux pays, accroître les besoins de leurs marchés respectifs et identifier des opportunités de développement de nouveaux produits d'exportation. En outre, cette signature vise à renforcer les relations organisationnelles en augmentant le commerce et les investissements dans les deux pays. La portée de la coopération comprend entre autres l'échange d'informations commerciales ou d'opportunités commerciales, l'essence des missions commerciales ou des missions d'achat, l'essence d'experts, les activités de promotion commerciale et la participation à des salons professionnels dans chaque pays. L'ITPO est une organisation relevant du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce de la République islamique d'Iran, initialement un accord conjoint sur la coopération en matière de promotion commerciale a été proposé par l'ITPO. La coopération est valable 2 ans depuis sa signature et peut être automatiquement prolongée si les deux parties ont encore besoin de programmes et d'activités connexes. Didi a déclaré que dans un contexte mondial en constante évolution, la coopération économique peut être la base pour construire des relations plus fortes et mutuellement bénéfiques entre les deux pays. Pour cette raison, la coopération entre le gouvernement et le secteur privé joue également un rôle important pour faciliter une coopération efficace en matière de promotion commerciale entre l'Indonésie et l'Iran. C'est Jelita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Oh. kau kembali.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Je vais vous présenter Pays Sol Empat de Pandeglang, Java occidentale. Chers amis, Sol Empat est une plante qui ressemble au taro, mais qui a des feuilles plus douces que le taro. Cette plante pousse entre les lèvres de la rivière et s'est généralement unie à des arbustes. Les plantes Sol Empat vont souvent être utilisées comme plantes ornementales. Si mangées, la texture est sucrée et salée, mais il y a une sensation d'amertume à la fin. C'est arrière-goût. Par les habitants de Pandeglang, dans l'ouest de Java, les plantes de païs sont transformées en spécialité locale. Ils transforment Sol Empat en païs ou pepes Sol Empat. Chargé de terre, pour faire du païs Sol Empat, vous devez utiliser généralement des bâtons de Sol Empat avant d'être cuites en païs. Les tiges de Sol Empat doivent être nettoyées de la sève avec de l'eau. Ensuite, les bâtonnets de Sol Empat coupés en petits morceaux sont mélangés avec du riz, des échalotes, des piments rouges et du poivre de cayenne ainsi que du sel et d'autres épices. Pour que la pâte de riz ne colle pas, on l'ajoute généralement avec des œufs de poule. Le mélange est ensuite agité jusqu'à consistance lisse, puis de feuilles de laurier et de la citronnelle sont ajoutées pour que le mélange devienne parfumé. De plus, cette pâte est enveloppée dans des feuilles de bananier, puis cuite à la vapeur. En dehors de cela, la pâte Sol Empat est généralement additionnée de gessier, de foie ou de tofu, selon les goûts. Lorsqu'il est consommé, le païs a un goût délicieux, moelleux, parfumé et rassasiant. Le goût épicé du piment cuit à la vapeur ajoute au plaisir du goût. Le Sol Empat a meilleur goût, surtout lorsqu'il est consommé avec d'autres plats, à savoir des légumes à peau de melinjo rouge ou en sundané à Pandeglang, il s'appelle Cangkang Tangkil. Pays Sol Empat est pas seulement délicieux, mais aussi bénéfique pour le corps. Sol Empat s'avère avoir de nombreux avantages, notamment le maintien de la glycémie, la prévention des maladies cardiaques et l'aide au maintien d'un poids corporel idéal. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent profiter de ce délice culinaire, vous pouvez facilement trouver du Sol Empat dans les restaurants de la région de Pandeglang. Le prix de ce repas, ça coûte environ 5 à 10 000 par portion. Bon, chers auditeurs, c'est tout. le magazine culturel. Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Cette jeune Indonésien entre dans la liste Forbes 30 Under 30 Asia 2023 ». Vous êtes avec moi Audrey. Serge Hutter Forbes vient de publier une liste des jeunes entrepreneurs, hommes d'affaires et professionnels du monde qui sont dans la catégorie d'âge à 30 ans en 2023. C'est d'entre eux venus d'Indonésie. Sur la base de la liste Forbes 30 Under 30 Asia, les 7 jeunes Indonésiens viennent de 5 domaines différents, allant de l'alimentation, de la vente au détail à la fabrication. En dehors de l'Indonésie, la catégorie Forbes 30 Under 30 Asia 2023 pour le commerce de détail est dominée par de jeunes entrepreneurs indiens. Le reste de cette liste est rempli de jeunes talents du Japon, de la Malaisie, de Chine, de Hong Kong et de plusieurs autres pays. Premièrement, il y a le nom d'Eko Pujanto, 29 ans, qui est le PDG de Sari Kreasi Boga SA, SKB Food. Ensuite, il y a aussi Félix Saputra, 28 ans, qui est actuellement répertorié comme cofondateur de Satu Dental. De plus, il y a aussi Tiffany Daniel, 27 ans, qui est connue comme la cofondatrice de Rosal Day Cosmetics, une marque de cosmétiques locale qui est également appréciée par de nombreuses femmes de la génération Y. Ensuite, il y a Clara Karina Lukito, 29 ans, et Claudia Sastra, 28 ans. Les deux collaborent et sont répertoriés comme cofondateurs de Little Joy. Les autres noms sont Clinton Augusto Kartawijaya, 27 ans, et Sally Varsley, 27 ans. Les deux font également un duo et sont répertoriés comme les cofondateurs de Muscle First. Tous les noms de cette liste ont été sélectionnés par un jury dirigé par le fondateur et PDG de RB Capital, Kishin Erka, et le fondateur et président du groupe Lan Kwai Fong, Alan Zeman. La liste de 2023 comprend une grande variété de 30 lauréats de moins de 30 ans, avec 20 pays et territoires représentés dans la région Asie-Pacifique. L'Inde est en tête de la région avec le plus grand nombre de lauréats, avec 75 sur la liste de cette année, suivi de la Chine avec 34. Le Japon est troisième avec 33 lauréats, occupe la cinquième place avec 28 lauréats. Bon, Serge Etar, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
Feel the emptiness inside.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Nusa Tenggara Oriental intitulée Ele Moto Paraliru. Chers amis, cette chanson raconte des conseils ou des messages adressés aux habitants de l'île de Sabu. Si vous vous promenez, n'oubliez pas votre ville natale. Un conseil très judicieux, car il ne faut pas oublier ta ville natale, car c'est là que tu as grandi, là où tu as commencé ta vie. En plus de cela, il y a un autre message qui n'est pas inclus dans les paroles, mais qui est devenu quelque chose qui doit être fait, à savoir ne pas se laisser emporter par les cultures des autres. Cela signifie que vous devez continuer à vous accrocher aux traditions culturelles que vous avez afin que la culture ne disparaisse pas. Bon, chers auditeurs, voici une chanson de Nusa Tenggara Oriental intitulée « Ele Moto Paraliru ». Bonne écoute. Thank you. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.